Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'Europe Soir, d'infos, de débats et de partage. Et ce soir, on reviendra évidemment sur les annonces du Premier ministre qui a donc donné le détail de ce qui nous attend pour le mois qui vient. Ouverture des commerces, fin du confinement strict, vacances de Noël. Et puis on parlera culture aussi avec un grand monsieur du cinéma, invité exceptionnel à 18h20, l'immense réalisateur Claude Lelouch. Il termine en ce moment son 50e et dernier film. Nous l'avons rencontré, il se livre comme jamais à notre micro. C'est à découvrir dans 15 minutes. 18h30, le débat des grandes voix. La France a-t-elle un problème avec sa police? On en parlera après cette vidéo où un jeune homme est tabassé par trois agents. Ils ont été suspendus. 19h15, le Club des idées. Grand débat ce soir sur la dette. Qui paiera pour tous ces milliards injectés dans l'économie française? Nous, nos petits-enfants? Ou faut-il tout simplement ne rien rembourser du tout, comme le réclament certains? On en débattra donc avec nos invités. Voilà pour le programme de ces deux heures. D'abord le journal avec vous, Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, vous êtes sur Europe 1.
Bien sûr, j'ai eu peur. Les gens qui doivent me protéger me braquent. J'ai eu la chance d'avoir des vidéos qui me protègent. Parce que sinon, je ne serais pas en face de vous aujourd'hui. Des caméras ou pas caméras, ça ne devrait pas arriver.
Trois policiers soupçonnés, image à la clé, d'avoir tabassé un homme samedi dernier à Paris dans un lieu privé.
Oui, ils viennent d'être suspendus avant même les conclusions de l'enquête. Dossier complet dès le début de ce journal.
Confinement, assouplissement, mode d'emploi, on en sait plus sur les mesures qui entreront en vigueur en trois temps.
Jean Castex a donc précisé les détails pour chaque secteur avec évidemment beaucoup de mécontents.
Mais aussi de nouvelles aides annoncées, notamment pour les travailleurs précaires et les jeunes.
Diego Maradona sera enterré dans les prochaines heures près de Buenos Aires au lendemain de sa mort après une veillée funèbre, empli de ferveur et d'émotion.
Et puis l'hommage national cet après-midi dans la cour des Invalides à Daniel Cordier, grand résistant, secrétaire de Jean Moulin. La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,08% à 5 566 points.
Et puis la tendance météo avec Anissa, bonsoir. De la pluie, aïe aïe aïe, dans le sud demain.
Bonsoir Julien, oui, cet épisode pluvieux qui a commencé aujourd'hui va se poursuivre demain, il va même s'intensifier. Dans l'ensemble, le temps sera quand même très agréable sur le pays, avec toujours des grisailles matinales. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et à la une donc cette nouvelle affaire de violence policière.
Oui, un producteur de musique noire frappé samedi dernier à Paris par trois policiers qui lui reprochaient de ne pas porter de masque alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans son studio d'enregistrement.
Littéralement passé à tabac. Grâce aux images de vidéosurveillance, on découvre le calvaire vécu par cet homme. Un calvaire qui va durer plus d'une dizaine de minutes, Pierre Herbulot.
Oui, 10 minutes qui empêchent Michel, un bras en écharpe, de trouver aujourd'hui le sommeil. On ne sait pas encore ce qui a motivé les trois policiers, deux en uniforme, un en civil, à suivre le producteur dans son studio. La suite, en revanche, est claire comme de l'eau de roche. Sur les images des caméras du local, on voit les policiers plaquer la victime contre un mur du couloir étroit. La porte d'entrée se ferme. La violence se déchaîne. Coup de poing, coup de pied, coup de matraque. Le producteur est passé à tabac. Il est frappé à une cinquantaine de reprises. Hurle au secours. Les artistes qui enregistrent un morceau au sous-sol finissent par rejoindre le producteur. En découvrant son visage en sang, il repousse les policiers hors du bâtiment, barricade la porte. Une fenêtre se brise, une capsule de gaz lacrymogène est jetée à l'intérieur du local. La pièce est enfumée dehors. Les policiers, rejoints par des collègues dans une confusion totale, ont sorti leurs armes. C'est une voisine qui filme. Les pistolets sont braqués vers l'entrée. Finalement, Michel est interpellé, toujours sans opposer de résistance, à l'intérieur du bâtiment. Il reçoit quelques coups supplémentaires avant d'être plaqué au sol. Il passera 48 heures en garde à vue.
Merci Pierre Herbulot devant les locaux de la police des polices à Paris, où Michel vient donc de déposer plainte. Il espère aujourd'hui obtenir justice après cette terrifiante agression.
Ça a été tellement difficile à vivre. Bien sûr, j'ai eu peur. J'ai mon téléphone à la main, j'ai un policier qui me braque, qui se cache. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va tirer dès qu'on a un angle? Mais bien sûr, j'ai peur. Je suis un homme, moi. J'ai peur. Les gens qui doivent me protéger me braquent. Donc moi, j'ai rien fait pour mériter ça. Et je veux juste que ces trois personnes-là soient punies par la loi. Parce qu'on a une bonne justice en France. Elle existe. Et puis, j'ai eu la chance, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir des vidéos qui me protègent. Parce que sinon, je ne serais pas en face de vous aujourd'hui. J'aimerais que ça ne recommence plus, bien sûr, pour personne. Des caméras ou pas caméras, ça ne devrait pas arriver.
Michel, ce producteur de musique tabassé donc samedi dernier à Paris.
Oui, cette nouvelle affaire, évidemment, entache encore un peu plus l'image de la police. Après les images du début de semaine, souvenez-vous de l'évacuation musclée de migrants place de la République à Paris.
Alors, les trois policiers mis en cause ont été suspendus à titre conservatoire par le directeur de la police nationale à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'est une procédure rarissime. Pour Patrice Ribeiro, le secrétaire général du syndicat Synergie Officier, il ne faut pas nier la violence de ces images. Et si les faits tels que le raconte ce producteur sont avérés, alors il faudra sanctionner.
On a des images qui sont extrêmement choquantes. Ce qui est clair, c'est que ces images ont été révélées et c'est tant mieux. Si des faits inadéquats et illégaux ont été commis, eh bien à ce moment-là, leurs auteurs n'auront rien à faire dans la police nationale. S'il apparaît qu'ils ont menti, à ce moment-là, c'est une double faute. Parce que d'une part, ils auront produit des faux en écriture publique, ce qui est une infraction criminelle. Et d'autre part, ils auront perpétré des violences, ce qui est indigne de gens qui portent l'uniforme. On ne peut pas, si des fautes vraiment sont avérées, on ne peut pas, absolument pas, cautionner le fait d'avoir dans nos rangs des gens qui se livrent à ce genre d'exactions.
Le secrétaire général du syndicat Synergie Officier, joint pour Europe 1 par Guillaume Bié. Beaucoup, beaucoup de réactions, hein, en tout cas sur les réseaux sociaux, après ce passage à tabac et la diffusion de cette vidéo. « J'ai mal à ma France », écrit notamment le footballeur Antoine Griezmann.
Oui, ce soir, on attend notamment la prise de parole du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les suites judiciaires de l'assassinat de Samuel Paty, 4 autres collégiens mis en examen, dont 3 pour complicité.
Ils sont soupçonnés d'avoir désigné la victime à l'assaillant.
Oui, le procès de Nicolas Sarkozy à présent pour corruption dans l'affaire des écoutes reprendra lundi.
La demande de renvoi pour raison de santé formulée par l'un des prévenus, Gilbert Azibert, a été rejetée. La justice estime qu'il est apte à comparaître.
18h05, après les annonces d'Emmanuel Macron sur les prochaines étapes de l'assouplissement du confinement, il restait quelques zones de flou qui ont été levées en partie ce matin par son Premier ministre.
Alors on va revenir bien sûr sur le détail de ces annonces et les différents secteurs concernés. Mais d'abord, Clément Le Saffre, une nouvelle fois, le gouvernement va sortir le chéquier pour aider en particulier les travailleurs précaires qui sont touchés de plein fouet par ce deuxième confinement.
Oui, les travailleurs précaires en ce moment, ce sont les saisonniers des stations de ski, les intermittents privés de spectacles ou encore les extras dans la restauration. Ils n'ont plus aucune activité. Le gouvernement va donc les aider en leur assurant un revenu de 900 euros par mois. Cette aide sera versée par Pôle emploi jusqu'en février à 400 000 Français, ceux qui ont travaillé au moins 60% du temps en 2019 et qui, cette année, n'ont pas de quoi recharger leur droit au chômage. Le gouvernement a également ciblé les jeunes qui, forcément avec le Covid, n'arrivent pas à trouver leur premier emploi. L'an prochain, 200 000 d'entre eux sans emploi ni études, contre 100 000 aujourd'hui, vont bénéficier d'une allocation de 484 euros maximum par mois. Ils pourront aussi se signaler auprès de la mission locale de leur ville pour se faire accompagner. Et puis les jeunes diplômés, eux aussi, sont en difficulté. Même un bac plus 5 ne suffit plus avec la crise. Ils seront aidés avec une allocation financière et un accompagnement spécifique à Pôle emploi ou à l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Enfin, on parle beaucoup de la restauration en ce moment, mais d'autres secteurs sont au plus mal. Le tourisme, l'hôtellerie, l'événementiel et tous leurs sous-traitants. À toutes ces entreprises, Jean Castex a promis une aide à hauteur de 15 à 20% de leur chiffre d'affaires.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Alors, pour rentrer dans le détail, parmi les confirmations du jour, les auto-écoles vont donc pouvoir reprendre les cours de conduite et les agences immobilières les visitent à partir de samedi, en même temps que la réouverture donc des commerces.
Pour les universités, en revanche, pas de reprise des cours en présentiel dans l'immédiat.
Les stations de sport d'hiver, de leur côté, seront, elles, ouvertes à Noël, mais les remontées mécaniques resteront fermées, les restaurants et les bars également.
On pourra donc prendre l'air à la montagne, mais pas pratiquer de sport de glisse. Les centres et les colonies de vacances ne pourront pas non plus rouvrir pour les fêtes de fin d'année.
Et puis les responsables des cultes espéraient, quant à eux, un peu de souplesse sur la jauge autorisée pour les cérémonies.
Et ils ne l'ont pas obtenue. Ce sera 30 personnes maximum, déception des catholiques en particulier, qui s'apprête à célébrer le premier dimanche de l'Avent. Écoutez le père Hugues de Voilemont, porte-parole de la Conférence des évêques de France.
Nous sommes très déçus et surtout étonnés de cette jauge de 30 que nous n'avions jamais demandé et qui est vraiment irréaliste. Nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles la décision a été prise alors qu'il y avait eu un signe du président de la République que nous avons perçu comme étant vraiment une vraie possibilité de revoir ce chiffre qu'on ne sait pas d'où il sort, qui est inapplicable surtout. Donc nous attendons à nouveau de pouvoir rencontrer, mais au bout d'un moment aussi on rencontre les personnes, on propose vraiment des protocoles très, très scrupuleux, très responsables, et puis on a le sentiment vraiment de ne pas être écouté. Peut-être qu'il y aura-t-il maintenant davantage d'impatience par rapport à ce que l'État nous demande.
Le père Hugues de Voilemont avec Virginie Riva, les représentants de la Conférence des évêques de France seront de nouveau reçus par Jean Castex dimanche soir. À Marseille, plusieurs milliers de restaurateurs, de patrons de bars et de discothèques ont manifesté cet après-midi. On sera sur place dans notre journal de 19h.
Et puis sachez également qu'il y aura une tolérance pour rentrer du cinéma et du théâtre après 21h à condition de montrer votre billet et que les conservatoires et écoles de musique rouvriront le 15 décembre, mais pas les classes de chant, pour des raisons évidentes de risque de contamination.
Notez enfin que le 15 décembre, ce sera la fin des attestations de sortie en journée, mais attention, couvre-feu à partir de 21h, couvre-feu qui sera levé exceptionnellement les soirs du 25 décembre et du 31 décembre, même si toutes les manifestations ou regroupements festifs resteront interdits.
24 décembre. Voilà, vous savez
évidemment
tout sur ces annonces aujourd'hui de Jean Castex.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Suite du journal, 18h10, Isabelle Millet. Depuis hier soir, la planète foot porte le deuil Diego Maradona.
Avec des hommages du monde entier, mais c'est en Argentine bien sûr que l'émotion est la plus vive. Les Argentins qui ont été très nombreux à se recueillir devant son cercueil exposé au palais présidentiel, recouvert du drapeau national et d'un maillot floqué du numéro 10.
Aude Villiers-Moriamé, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires sur place et vous avez vécu cette veillée, cet adieu des Argentins à leur idole.
Et oui, des milliers de personnes attendent depuis des heures pour assister à la veillée funèbre de Diego Maradona à la Casa Rosada. Plus de 600 mètres de file d'attente pour accéder au palais présidentiel. Chez les supporters qui attendent leur tour, règne en tout cas une ambiance très festive. Beaucoup sont venus avec des fleurs et des maillots de foot qu'ils vont déposer près du cercueil de Maradona. L'ambiance est évidemment plus grave, plus solennelle du côté de la sortie du palais présidentiel. J'ai parlé avec certains supporters très émus qui n'en revenaient toujours pas, comme Soledad, fan de Maradona de la première heure.
Comme tous ceux qui aiment le football, je ressens une émotion immense. Diego était et reste le meilleur sportif de tous les temps. J'ai toujours rêvé de le rencontrer et l'annonce de sa mort, si tôt, ça m'a vraiment brisé le cœur.
Alors la veillée doit en théorie s'étendre jusqu'à 16h, heure argentine ce jeudi, soit encore 2h à peu près, mais elle pourrait être prolongée vu le monde qu'il y a encore devant le palais présidentiel. Après cela, eh bien, doit se tenir l'enterrement qui aura lieu en grande banlieue de Buenos Aires, soit ce soir, c'est l'intention de la famille en tout cas, soit demain au plus tard.
Merci Aude Villiers-Moriamé, correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires. La France a, elle, rendu cet après-midi un hommage national à Daniel Cordier.
Ancien résistant, ancien compagnon de la Libération, secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier qui s'est éteint vendredi dernier. Il avait 100 ans. Une cérémonie dans la cour des Invalides à laquelle vous avez assisté lors d'Autriche.
Oui, un hommage tout en sobriété. On n'entendait que le claquement des talons des hommes qui ont porté le cercueil jusqu'au centre de la cour pavée des Invalides, sous le regard aussi d'Hubert Germain, 100 ans, le dernier compagnon de la Libération vivant, assis dans sa chaise roulante. Emmanuel Macron est revenu sur la vie de Daniel Cordier, ce garçon de 20 ans à la lumineuse légèreté qui avait rejoint De Gaulle en 40, impatient de se battre pour sauver l'honneur du pays, puis en 42, parachuté à Lyon, où il est pendant près d'un an le secrétaire de Jean Moulin. Daniel Cordier, après la guerre, a un instant été tenté par l'engagement politique avant finalement de se consacrer à l'art moderne que lui avait fait découvrir Jean Moulin. Emmanuel Macron a salué le compagnon de la Libération qu'il était.
Cette flamme que vous avez allumée avec vos compagnons ne s'éteindra pas et elle continuera à en inspirer bien d'autres. Adieu Caracalla et aujourd'hui, en cette cour d'honneur des Invalides, il n'en reste qu'un, c'est vous, Hubert Germain. Mon lieutenant, je compte sur vous, et vous le savez, vous ne serez jamais seul. Daniel Cordier a rejoint Jean Moulin et tous vos camarades, et leur souffle, leur bravoure sont intacts, qui vous porteront chaque jour.
Daniel Cordier sera enterré demain matin au cimetière du Père-Lachaise. Le dernier des compagnons sera lui enterré dans la crypte du Mont-Valérien. Ce sera donc Hubert Germain. Là-bas, un caveau attend le dernier des compagnons depuis 75 ans.
Lord d'Autriche qui a donc suivi pour Europe 1 cette cérémonie d'hommage national.
Merci Isabelle. À tout à l'heure, 18h30 pour le rappel des titres et 19h pour le Grand Journal. La météo, 18h14 avec Anissa qui nous a rejoint. L'épisode pluvieux se poursuit dans le sud cette fois.
Et en particulier sur le Roussillon, Julien, et sur l'est de la Corse. Sur le golfe du Lion, de manière générale, la journée de demain sera encore assez agitée, comme aujourd'hui, avec des précipitations toute la journée. Le vent d'autant qui souffle, et en plus, nous avons le vent d'est qui vient se mêler à cela et qui va souffler sur le département du Var demain après-midi. En montagne, sur les Pyrénées, toujours des flocons à partir de 2000 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, dans le sud, les pluies vont se renforcer. Attention, nous aurons même sur la partie est de la Corse des coups de tonnerre demain. Sur le nord-ouest, quelques toutes petites gouttes sur la Bretagne et la Normandie.
Mais alors, toutes petites.
Toutes petites, bon. Vraiment, c'est anecdotique. Mais partout ailleurs, le temps est calme, sec et ensoleillé. Ça sera encore une belle journée sur une grande partie de la France. Les températures sont stationnaires. Moins 2 à Nancy, 2 à Clermont-Ferrand, 4 à Paris, 12 à Marseille le matin. Et au meilleur de la journée, nous aurons 4 degrés à Strasbourg, 8 à Nancy, 11 à Paris et Belfort, 14 à Lorient, 18 à Biarritz. Et il va faire doux en Corse sous les nuages. Avec 20 degrés pour
Ajaccio. On a quand même descendu une grosse marche en 48 heures en termes de température.
Oui, hein. Oui, vous l'avez
faut
senti.
Faut que ça s'arrête maintenant, Anissa. Faut que ça s'arrête.
Ça va même remonter un petit peu, Julien.
Bien, merci, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h20, il est l'un des plus grands réalisateurs du cinéma français, scénariste, producteur, un homme et une femme, l'aventure c'est l'aventure, l'itinéraire d'un enfant gâté. Il tourne actuellement son 50e opus, son dernier, dit-il. Bonsoir Claude Lelouch.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'imagine que vous avez suivi comme nous les annonces d'Emmanuel Macron et celles de Jean Castex à la mi-journée. La perspective d'abord de voir les salles de cinéma rouvrir le 15 décembre. C'est un soulagement, ça vous réjouit ?
Bah écoutez, oui, parce que moi j'ai été élevé au grand écran, à la grande salle de cinéma. Je veux dire qu'il m'est très difficile de voir des films sur des petits écrans. Je ne peux pas m'en passer. Vous savez, moi j'ai 83 ans. Et je vais au cinéma tous les jours. C'est la première fois dans mon existence que j'ai été privé de cinéma. Même pendant la guerre, je pouvais aller au cinéma. Voilà. Donc c'est un manque énorme. Et j'espère que le 15 décembre, tout le monde va se précipiter pour combler ce manque. Voilà.
On l'espère tous. Le chef de l'État a d'ailleurs, Claude Lelouch, beaucoup insisté sur la culture dans son allocution mardi soir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs de la culture qui se sont sentis abandonnés pendant cette crise du Covid. Les spectacles fermés, les théâtres, les salles de cinéma, les spectacles vivants. Est-ce que vous, ça vous a touché personnellement? Les livres, évidemment. Est-ce que vous, ça vous a touché? Est-ce que vous en avez parlé, par exemple, je ne sais pas, à Roselyne Bachelot ou à Dupont-Moretti, qui est, je crois, un de vos amis?
Oui, alors j'en ai parlé à plein de gens. J'en ai parlé à plein de gens. Mais surtout, on ne peut pas se priver de rêve. On peut mourir de tout, sauf d'une overdose de rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on nous a privés de rêve. Si on ne peut pas rêver, et c'est la culture, elle est là pour nous faire rêver. Elle est là pour nous faire croire à un monde meilleur. Vous savez, il y a deux sortes de gens.
Oui.
Ceux qui veulent changer le monde, et puis ceux qui essayent de s'y adapter. Voilà.
Et vous,
moi, les personnages de mes films, ils essayent de s'adapter au monde. Ce sont des utilisateurs du présent. Et je crois au présent. Le présent, c'est la seule chose qui nous appartient. Le présent, il n'a pas le temps de vieillir. Et ceux d'entre nous qui savent apprécier le présent sont peut-être un peu plus privilégiés que les autres.
Alors pour vous aussi, Claude Lelouch, ça a été difficile cette période parce que vous avez dû arrêter en plein tournage votre dernier film qui reprendra, je crois, au printemps. C'est le 50e. C'est le dernier, d'ailleurs, dites-vous. Comment on vit ça quand on est réalisateur, quand on est lancé avec ses comédiens, avec ses acteurs, ses actrices, avec tout le personnel qui vous entoure? Comment on vit ça de devoir arrêter un tournage? Et c'est un film sur lequel, en plus, je crois, vous travaillez depuis très très longtemps.
Oui, alors c'est un film que je prépare depuis 20 ans, parce que je savais que les années 20 seraient folles. Comme toutes les années
2020.
20. Hein, oui, non, mais je savais, vous savez, à chaque fois que le siècle a 20 ans, il est fou.
Oui.
Alors je vais raconter l'histoire que j'avais envie de raconter, avec en plus tous ces masques et tout ce qu'on est en train de vivre, parce que j'ai toujours été le témoin de mon temps et j'ai très envie à la fois qu'on rit, qu'on se moque et qu'on voit le côté positif de ce qui se passe.
Et c'est important ce que vous dites, Claude Lelouch, parce que à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui en 2020 et de ce qui s'est passé ces dernières années, les gilets jaunes, les grèves, les manifestations, et puis aujourd'hui, bien sûr, le Covid.
Tout ça est arrivé pendant l'année 2020.
Vous avez dû réécrire une partie du scénario.
Complètement, complètement. Et j'ai été obligé de le réécrire encore une troisième fois parce que au moment du tournage, on a été obligé d'interrompre le tournage à cause d'un cas de Covid qu'on a eu sur le plateau. Et donc, vous savez, la contrainte sollicite l'imagination. Je crois à la vertu des impondérables. Et tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'a fait souffrir dans la vie, m'a fait grandir. Je veux dire que tout ce que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté. Et donc, ça m'a obligé à remettre en question absolument tout ce que je voulais faire. Et j'adore ça. Vous savez, on parle beaucoup d'improvisation dans mes films. Il y a les figures libres, il y a les figures imposées. Et c'est vrai que les figures libres sont plus fortes que nous. Vous savez, le plus grand scénariste du monde, c'est la vie. Et moi, je n'ai rien fait d'autre que de m'inspirer de ce scénariste absolument incroyable. Et là, il est dans une forme incroyable.
Oui.
Jamais, jamais, j'aurais eu le culot de mettre dans un film tout ce qu'on est en train de vivre.
Et par conséquent, le film va être complètement fou. Puisqu'il reprend tout ce qui s'est passé en 2020.
Oui, et puis c'est un film qui va être une suite de L'aventure, c'est l'aventure, et des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on va retrouver les petits-enfants de tous ces personnages qui ont grandi justement dans ces années 60, 70 et 80 et qu'on retrouve aujourd'hui en 2020.
Est-ce qu'on peut, Claude Lelouch, en donner le titre et puis peut-être le casting ?
Alors, le titre, c'est « L'amour, c'est mieux que la vie ».
Ça, c'est vrai. C'est vrai, ça.
Et j'en suis de plus en plus convaincu, même quand ça fait très très mal. Je veux dire que quand on est amoureux de quelque chose ou de quelqu'un, tout est possible. Voilà. Et donc ça, c'est une certitude. Maintenant, et j'ai une autre certitude, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées, la preuve. Et donc, je vais jouer sur ce registre. Donc, c'est un film qui va mélanger les genres, qui va mélanger les personnages, qui va être aussi très musical, voilà, et qui aura un casting de rêve, puisque si je commence à vous dire le casting, on en a pour une heure. Vous voyez. Mais enfin, il y aura Gérard Darmon, Harry Habitant, Kev Adams, Sandrine Bonner, Philippe Lelouch, Robert Hossein, il y aura Jean-Louis Trintignant,
wow.
François Sabian, vous voyez, pour les anciens, il y aura Francis Huster, il y aura Clémentine Sellarier, Béatrice Dalle, Elsa Silberstein. J'ai une pléiade d'acteurs.
Vous avez déjà une projection sur la date de sortie ?
Ben écoutez, si tout va bien pour Noël 21. Voilà.
D'accord, ce sera un cadeau de Noël pour tous les Français et les Françaises. Ça a été compliqué de tourner dans ces conditions, j'imagine. J'évoquais tout à l'heure le fait que vous avez été contraint d'arrêter le tournage pendant plusieurs semaines. C'est difficile comme ça de devoir au gré du contexte extérieur à votre film et à la situation de vos comédiens, de devoir s'adapter comme ça.
C'est comme faire le tour du monde en bateau. Il faut faire avec le temps. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Je ne peux pas demander à la vie de s'adapter à moi, mais moi, je peux m'adapter à elle. Et je pense que toutes les merdes qu'on a eues sur ce film vont être bénéfiques. Je veux dire qu'on est en train de transformer tous les échecs en victoires. Je veux dire que, vous savez, je suis un malade du positif. On est dans un monde où le négatif est plus fort que le positif. Vous le voyez aux informations, les mauvaises nouvelles, les catastrophes ont plus de force que les bonnes nouvelles. Et moi, je me suis toujours accroché au positif. Avec un 1, je peux faire un 2. Avec un 2, je peux faire un 4. Avec un 0, je peux faire que des 0. Voilà. Et donc, quand je m'accroche à ce qui marche, toute ma vie, je me suis accroché à ce qui fonctionne. Et même par temps de Covid, il y a encore des trucs qui fonctionnent et on peut faire des films.
Une dernière question sur le choix de Marina Foïs pour la prochaine cérémonie des Césars. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon choix ?
Écoutez, moi, je n'ai jamais été un fan des Césars.
Oui.
Je faisais partie du conseil d'administration des Césars. Mmh. J'ai donné ma démission avec tout le monde et je suis très content. Cette cérémonie fait plus de gens malheureux que de gens heureux. Et donc, ça ne me plaît pas.
Je voudrais simplement, pour terminer, si vous en êtes d'accord, envoyer un message. Je sais que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup et qu'il vous aime en retour beaucoup. C'est Michel Drucker qui a...
Je l'adore. C'est un frère.
Qui a passé une période un peu difficile, comme vous le savez. Donc je voudrais profiter, parce que moi aussi je l'aime beaucoup, Michel. Je voudrais profiter de votre présence, tous les deux.
Voilà un homme positif.
Pour lui envoyer un petit message, positif.
Je lui dis que, comme je suis positif, comme je crois que le pire n'est jamais décevant, il va revenir encore mieux qu'avant, encore plus beau qu'avant, avec encore plus de talent qu'avant. Il n'a pas dit son dernier mot. Il va jouer les prolongations et les tirs au but.
Et comme il dit souvent, si tu nous écoutes, Michel, ce message est pour toi.
Si tu nous écoutes, et je suis sûr qu'il m'écoute, mais il aime les gens. Donc s'il aime les gens, moi je l'aime à la folie.
Merci Claude Lelouch, merci.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, le rappel des titres, Isabelle Millet.
Et les trois policiers filmés en train de frapper un producteur de musique noire à Paris samedi dernier sont suspendus à la demande du préfet de police et du ministre de l'Intérieur. Les images montrent une intervention très violente assortie, d'après l'intéressé, de propos racistes. L'IGPN a été saisi. L'affaire des écoutes, la demande de renvoi du magistrat Gilbert Azibert est rejetée. Le procès de Nicolas Sarkozy reprendra donc lundi. L'hommage national cet après-midi aux Invalides, à Daniel Cordier, décédé vendredi dernier, avant-dernier compagnon de la Libération, secrétaire de Jean Moulin. Emmanuel Macron a longuement salué sa mémoire. Avec quelques autres, il a permis, a-t-il dit, à la France de reprendre possession de son destin. Diego Maradona sera enterré ce soir ou demain matin dans un cimetière proche de Buenos Aires. Des dizaines de milliers de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage devant le palais présidentiel où était exposé son cercueil.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 19h. La météo avec Anissa qui nous a rejoint, une dégradation au bord de la Méditerranée qui arrive doucement mais sûrement.
Oui, qui arrive bien effectivement Julien, demain du Languedoc jusque sur le Var, le ciel est très couvert demain. Le temps est agité également sur l'île de Beauté et la partie est de la Corse où là nous aurons des pluies, des orages et du vent. Les pluies sont soutenues toute la journée sur le golfe du Lion. Le vent d'Autan souffle et le vent d'Est se lève et il va souffler lui sur le Var. Sur le reste du pays, un petit peu de nuages du côté de la Bretagne et de la Normandie avec quelques petites pluies. Partout ailleurs, le soleil est au rendez-vous après la dissipation des brouillards matinaux. Les températures, moins 2 à 12 degrés demain matin, moins 2 pour Nancy, 12 à Marseille et 4 à 18 degrés demain après-midi. Allez, ça remonte tout doucement.
Bah, Franz-Olivier Gisbert a bien fait de quitter Marseille. Eh bah il y a oui. du vent là-bas, il fait beau à Paris.
Non,
merci
j'y retourne,
Franz.
J'y retourne tout
vous y retournez.
Je vais rapporter le soleil demain à Marseille.
Merci Anissa.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, vous l'avez compris, c'est donc le débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés. Franz-Olivier Gisbert, écrivain, éditorialiste au Point. Bonsoir Franz.
Bonsoir.
Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique et économie Paris Match. Bonsoir.
Bonsoir Julien.
Et Michel Cotta qui est avec nous comme tous les jeudis.
Bonsoir,
bonsoir Michel.
Julien.
Alors avant de revenir avec vous sur les annonces Covid du Premier ministre, d'abord parlons de cette vidéo de violence policière. Un producteur de musique noire a été roué de coups par trois policiers qui sont entrés dans ses locaux. Des images d'une extrême violence, ça dure plus de 5 minutes. Ils ont été suspendus, l'IGPN a été saisi et le ministre Darmanin a réagi. On écoute d'abord ce monsieur qui s'appelle Michel.
Bien sûr j'ai eu peur. J'ai mon téléphone à la main, j'ai un policier qui me braque, qui se cache. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai eu la chance, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir des vidéos qui me protègent. Parce que sinon, je ne serais pas en face de vous aujourd'hui. Des caméras ou pas caméras, ça ne devrait pas arriver.
Franz-Olivier Gisbert, c'est terrible ces images quand on les voit pour l'image de la police.
Ah mais c'est monstrueux. C'est... Moi, j'ai vu la vidéo, j'ai même vu deux fois parce que j'y croyais pas. Alors je me dis, ça a peut-être été monté, il y a peut-être des éléments qui pourraient donner, pas des justifications, aucune, ce qu'a fait la police. Enfin, c'est atroce, c'est insupportable. Et c'est d'autant plus affreux que, évidemment, ça rajoute de l'eau au moulin de ceux qui veulent expliquer et qui veulent nous faire croire que la police française est une des pires polices au monde, ce qui est totalement absurde, aberrant. Et voilà. Donc, ces types-là, ils ont quand même, si... Enfin, il faut voir l'enquête. Hein, moi, je veux pas... Tout le monde est présumé innocent au départ. Mais enfin, si c'est avéré, ils ont fait beaucoup, beaucoup de mal à la police. Oui. Surtout à un moment où les choses étaient peut-être en train de se rétablir. C'est-à-dire, on en a pris plein la gueule quand même depuis des mois et des mois. Et puis, on sentait que les choses étaient en train de changer.
Oui.
Et là, bon, il y a une espèce de brusque retournement. Et je pense que ça veut dire qu'il faut vraiment régler ce problème. On ne peut pas continuer comme ça à avoir donné le sentiment aux gens. Et là, ce n'est plus le sentiment parce que c'est une réalité.
C'est une réalité, ouais.
Qu'on vit dans un état policier avec une police qui peut faire n'importe quoi.
Deux remarques. C'est vrai que le climat était peut-être plus positif pour la police, mais c'est sans compter la polémique sur l'article 24 et puis ce qui s'est passé, place de la République,
bien
avec
bien
l'évacuation
bien
des.
Ah, ben c'est une très mauvaise nouvelle pour l'histoire de la révision de l'article 24.
Réaction Michel Cotta. Et puis j'ajoute quand même que, heureusement qu'il y a la vidéo.
Ah bah heureusement, on sait tous, vive les vidéos.
Surtout en plus, Michel,
il est en prison.
Il est très sympathique, Michel, quand il raconte. Et en plus, il a l'air tellement naturel.
Oui.
Heureusement, donc, il y a la vidéo. Je trouve vraiment que ça ne pouvait pas tomber plus mal. Quoi. Ça ne peut pas tomber plus mal. Déjà, la République, bon, on peut dire 500 tentes, il faut bien les sortir. Alors, si on les sort, peut-être. Mais là, franchement, c'est quelque chose de complètement gratuit. Et puis, de complètement raciste, quand même.
Oui.
Raciste. Alors, qu'un racisme existe dans la police, on le sait. Bon, c'est pas la peine de se cacher derrière les petits doigts. Ils sont pas majoritaires. Mais bon, mais là, vraiment, c'est une démonstration éclatante.
Et ça n'a aucun sens.
Et heureusement que Darmanin donc, a réagi tout de suite, mais je ne vois pas ce qu'il pouvait faire d'autre.
Et ce soir, il est attendu une prise de parole, notamment au JT de Anne-Sophie Lapix sur France 2. Bruno Jeudy, est-ce qu'il y a un problème quand même en France avec la police?
Ben, il y a un problème, en tous les cas, là, je n'ai rien à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Il y a un problème quand on voit l'image de la police qui se dégrade beaucoup depuis 2015, singulièrement depuis l'année dernière. 70% des Français, selon un sondage récent Elabe, avaient confiance dans leur police l'année dernière. Ils sont 65% cette année. Vous allez me dire, c'est 5 points de moins, mais c'est beaucoup à l'aune d'une police qui en général est très soutenue par les Français. Elle l'est encore à 65%, mais on voit que ça se dégrade. Donc on voit bien quand même que ce qui s'est passé ces dernières années, a choqué une partie de l'opinion. Pas toute l'opinion, il ne s'agit pas de mettre tous les policiers dans le même sac, ce n'est pas du tout mon idée, moi en plus je suis plutôt un défenseur de la police, mais globalement, à ne pas vouloir de temps en temps faire la police dans la police, avec une IGPN qui, à mon avis, c'est sans doute... Vous savez, c'est Jean-Michel Fauvert, qui est l'ancien patron du RAID, qui est aujourd'hui député marcheur, qui, depuis le début du mandat, se bat pour qu'on remplace l'IGPN par une institution indépendante qui juge les policiers. Ouais. Et en Angleterre, c'est ce qui se passe. Mais la confiance dans la police reviendra si on a le sentiment, les citoyens,
qu'il y a des sanctions qui sont prises
lorsque des bandits sont chopés, qu'elles soient sanctionnées.
Mais quand même, quand on élargit un petit peu la focale, quand on voit les excès de violence de la part de certains policiers au moment de la crise des Gilets jaunes, parce qu'il y en a eu, on a vu les vidéos, les policiers sont ceux qui incarnent quand même l'ordre public et qui incarnent une forme de moralité aussi vis-à-vis de la violence.
Mais n'oubliez jamais qu'ils payent un tribut, c'est-à-dire qu'il y a 19 morts par an ou un peu plus, ça dépend. Enfin, ils payent vraiment lourdement.
Des agressions.
Bien sûr, des agressions sans arrêt, des attaques, etc. Et je pense que ça montre aussi à quel point ils sont à cran. C'est très compliqué, cette affaire. C'est
évidemment, il faut tout de suite punir les brûlés. Ma question était la suivante. Sans être pour ou contre la police, qui est un débat absolument stérile, parce qu'on est tous pour notre police nationale. On est tous pour notre police nationale. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire pour avoir une police nationale qui soit irréprochable?
Je suis d'accord. En même temps, c'est vrai, c'est qu'il faut veiller à éviter les provocations. Je crois qu'il y a quelque chose. Alors là, je ne suis pas en train de dire que Michel a provoqué, parce qu'il n'a rien provoqué du tout, le pauvre. Il a pris comme ça des coups pour rien. Mais on voit très bien, il y a une vidéo qui circule sur ta Boivs, qui se présente comme un journaliste, et on voit très bien, il provoque le policier. Oui. Et c'est juste incroyable, c'est-à-dire, et c'est tout juste, il va pas aux mains avec lui, et il lui dit sans arrêt « me touche pas, tu me lâches !» Enfin, et ça, ils sont quand même confrontés à ça régulièrement. Donc, ils sont à cran, et quand on est à cran, on fait des bêtises. Donc, il y a toute une rééducation.
Oui, là, c'est un peu plus qu'une bêtise quand même, Michel Cotta.
Enfin, des bêtises, c'est plus que des bêtises, pardon.
Je trouve que sur le racisme, quand même...
Ah oui, c'est impardonnable, bien sûr.
Non, mais il y a quand même des enseignements à leur donner, à ces écoles de police, quand même. On peut, dès l'école, dire ça, jamais.
Mais jamais,
voilà.
Bien sûr,
jamais,
c'est interdit,
même si vous le pensez,
absurde.
Même si... Jamais.
D'autant qu'il y a une mixité sociale très forte au sein de la police.
Bah oui.
Et d'origine, d'ailleurs. Et c'est bien.
C'est très bien.
Et la diversité est respectée.
Probablement un des corps de la fonction publique où il y a une plus grande diversité. Mais non, je crois qu'il faut vraiment redonner confiance. Et la confiance vient peut-être d'un organe indépendant qui jugera la police. Et ce n'est pas neutre, cette proposition du député Jean-Michel Fauvert.
Alors, on continue d'en parler dans quelques secondes, 18h38. Et on évoquera la place de Gérald Darmanin. Est-il fragilisé ou non? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, le débat des grandes voix du jeudi qui se poursuit avec toujours Michel Cotta, Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique et économie Paris Match, et Franz-Olivier Gisbert. Et on évoque donc ce soir cette vidéo qui fait polémique, où un producteur de musique noire est vu roué de coups par trois policiers qui sont entrés dans ses locaux. Les policiers ont donc été suspendus, l'IGPN a été saisi, et je le disais tout à l'heure, le ministre Darmanin a réagi. Alors justement, Gérald Darmanin, il se murmure dans les allées du pouvoir qu'il est fragilisé. Selon le Figaro, les proches du chef de l'État s'inquiètent des débordements du ministre de l'Intérieur. Fais attention à ce que la loi sécurité globale et l'article 24 ne deviennent pas ta déchéance de nationalité, l'auraient alerté des proches.
Ils ont un peu raison. C'est-à-dire, de toute façon, on sait très bien, nous, en tant que journalistes, c'est très embêtant, cette histoire. Imagine si c'est voté. Mais comment on peut appliquer cette loi? On sait très bien, on a ces vidéos, évidemment, ou des photos, on les publie. Parce que c'est notre métier, c'est notre fonction. Donc pourquoi interdire? Parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Donc on ne comprend pas parfois ces politiques qui se lancent comme ça dans des grandes réformes dont on sait par avance qu'elles ne seront pas appliquées. Et je veux dire, ce n'est pas la première fois.
Et puis deux faits d'actualité sur des violences supposées policières qui vont à rebours de cet article 24.
La vidéo de Michel montre évidemment que les vidéos sont nécessaires. D'ailleurs, moi j'ai toujours plaidé en faveur des vidéos depuis très longtemps, et je suis heureux de voir d'ailleurs qu'un grand nombre de politiques maintenant sont partisans de vidéos, pas encore assez d'ailleurs. Mais
il est fragilisé, Bruno Jeudi, le ministre Darmanin ?
Je Je ne sais pas s'il est fragilisé parce qu'il reste quand même un élément central. Il reste un élément central de la stratégie d'Emmanuel Macron et ça ne vous aura pas échappé qu'il remonte dans les sondages, Emmanuel Macron. Oui. Et je crois qu'il remonte parce qu'il est sur le régalien.
Mais est-ce qu'il n'est pas en train de lui faire perdre tous les bénéfices de son projet de loi sur le séparatisme, par exemple ?
Non, on n'en est pas là. Je pense que, en revanche, Gérald Darmanin agace beaucoup des membres du gouvernement, beaucoup des membres de la majorité.
Parce qu'il est populaire.
Il n'est pas encore.
On le sent.
On le sent
que c'est l'homme qui monte.
Mais ce qui est certain, c'est que c'est l'homme central du dispositif d'Emmanuel Macron qui, lui, remonte dans les sondages. Alors après, faire attention, pas confondre vitesse et précipitation.
Oui, et puis l'homme qui monte,
raison de plus, justement, parce qu'il est un des soutiens régaliens du président de la République, raison de plus pour qu'il soit le plus prudent possible. Et c'est vrai qu'il voulait ce ministère. On sait bien que c'était l'exemple de Sarkozy, pourquoi il le voulait. Bon, eh bien, il doit se réfréner ses ardeurs, d'autant plus que le président de la République a vraiment besoin de lui, parce que on voit que la défiance, quand même, la défiance peut-être vis-à-vis des policiers, mais il y a aussi une défiance vis-à-vis des terroristes, et on voit bien que c'est ça qui fait remonter quand même Emmanuel Macron, autant que la gestion du Covid aujourd'hui.
Non, mais il a un positionnement qui est le soutien indéfectible à la police, c'est normal, il est dans son rôle, mais peut-être parfois un peu trop. Il n'a pas eu de mot, par exemple, pour la victime Michel, là, à l'issue de cette vidéo.
À mon avis, ça viendra, il est assez malin. Quoi.
Il a tout de suite condamné les flics.
Mais c'est vrai que moi, je suis toujours étonné par des personnalités très fortes qui avancent. Et qui, à un moment donné, font la connerie. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien sa stratégie, c'est que, au contraire de son prédécesseur, qui lui se fichait pas mal
Christophe
de la police,
Kestener.
Voilà, Christophe, qui se fichait complètement des policiers, lui, il veut être aimé. Je crois que c'est important, effectivement, d'être aimé. Mais c'est pas parce que s'il veut être aimé, il n'est pas obligé de faire ce que les policiers lui demandent, parce que l'article 24, c'est pas lui qui l'a trouvé, évidemment. C'est des syndicats de police qui étaient partisans de ça. Et je pense qu'il est important, oui, d'être aimé, mais c'est aussi d'être respecté et puis aussi d'être craint. Quoi. C'est ça, ouais. C'est ça, sa fonction.
C'est tant être Michel. Ministre de l'Intérieur, Dieu sait qu'on connaît les ministres de l'Intérieur,
et des pires, des bien différents, des pires et des meilleurs.
Oui. Et bon, c'est toujours épouvantable d'être ministre de l'Intérieur. Il vous tombe toujours quelque chose sur la figure au dernier moment, vous ne pouvez pas dormir. Raison de plus pour que ce jeune homme, qui commence à avoir des cheveux blancs d'ailleurs, que ce jeune homme se calme.
Je pense surtout que dans la majorité, dans le cercle proche du président et aussi parmi les ministres, je le redis, il y en a beaucoup qui sont dérangés de voir Emmanuel Macron, Gérald Darmanin prendre de plus en plus de place auprès d'Emmanuel Macron. Ça déplace le barycentre de cette majorité nettement vers la droite. C'était l'objectif. Sauf que ceux qui sont proches d'Emmanuel Macron, eux, sont issus de la gauche. Regardez les secrétaires d'État, les ministres.
Il y a quand même beaucoup de bras cassés dans l'équipe, dans le gouvernement actuel.
Mais il n'empêche que c'est quand même...
J'ai jamais vu autant de bras cassés. Il y a des exceptions. Jean-Michel Blanquer, évidemment. Pardon ?
Il n'y en a pas beaucoup d'exceptions.
Mais il y a quelques exceptions, quand même. Et dont Gérald Darmanin. Donc on ne peut pas nier ça. C'est-à-dire, s'il a pris cette place, c'est aussi parce qu'il est plus doué que... Alors je ne veux pas citer des noms, parce que la liste est trop longue.
Bien, 18h45, vous restez avec nous les grandes voix et vous, amis auditeurs également. Dans un instant, on va revenir sur la conférence de presse de Jean Castex. Tiens, on va faire un petit jeu. Si on était à l'école des fans, quelle note vous lui donneriez ? A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Buchy.
18h48, la suite du débat des grandes voix. Michel Cotta, Bruno Jeudy, Franz-Olivier Gisbert. Et on va revenir donc ensemble sur la conférence de presse de Jean Castex, après le grand oral du chef de l'État, suivi tout de même par près de 29 millions de téléspectateurs, dans lequel il a donc exposé sa stratégie de confinement, de déconfinement en trois étapes, réouverture d'abord des commerces non essentiels, l'instauration d'un couvre-feu qui remplacera le confinement le 15 décembre, dernière étape enfin, fin janvier, l'ouverture possible des restaurants. Alors comment vous l'avez trouvé, vous, Jean Castex ? Parce qu'on a bien compris que cette fois les rôles étaient clairs, le président de la République décide, le Premier ministre fait l'explication de texte et la logistique. Franz.
Bah, il a toujours le mauvais rôle. Il rentre dans les détails et c'est ça les détails qui sont emmerdants parce que ça permet à Macron d'être très brillant.
Et il s'en mêle les pinceaux parfois dans les détails.
Bah oui, bien sûr, parce que dès que vous rentrez dans les détails, en plus, excusez-moi, on est en absurdistan. C'est-à-dire que, par exemple, on ferme les coiffeurs, mais les toilettes pour chiens sont autorisées quand on vous vendait des croquettes. Voilà. Bon, alors peut-être que les coiffeurs devraient vendre des croquettes, comme ça ils auraient pu rester ouverts.
Les stations de ski ouvertes, mais pas les remontées mécaniques.
Oui, enfin, tout ça est vraiment très étrange. On voit vraiment la bureaucratie française à plein. Le ministère de la Santé, les ARS, tout ça s'en mêle. La bureaucratie. Et ça, c'est vrai que quand on fera le bilan du coronavirus en France, il sera très mauvais en nombre de morts. Il est mauvais quand on regarde. J'entends dans les médias en permanence des trucs horribles sur le Brésil et les États-Unis. Eh ben, je vais vous dire, si on rapporte le nombre de morts à la population, eh ben, on arrive à des résultats à peu près équivalents au Brésil et aux États-Unis. Et ça, vous ne l'avez pas dans les médias. Donc, c'est un résultat épouvantable.
Éric Raoul.
Michel.
Mais ça n'a rien à voir. Là, tu es en train de sortir d'Éric Raoul. C'est les résultats. Excuse-moi.
Parenthèse fermée. Je voudrais qu'on reste sur Jean Castex, si vous le voulez bien.
Je trouve que Emmanuel Macron est arrivé à faire ce qu'il voulait d'un Premier ministre. C'est-à-dire un directeur de cabinet, mais c'est ce qu'il envisageait, c'est ce qu'il disait toujours lorsqu'il était lui-même secrétaire général adjoint de l'Élysée. Bon, et ben voilà, là il est arrivé.
Il est repris à deux fois quand même.
Au-delà peut-être de ses espérances d'ailleurs.
Bruno Jeudy, est-ce que vous êtes d'accord avec François-Olivier Gisbert? On est en Absurdie ou en Absurdistan, je ne sais pas comment on dit ça, mais est-ce que le cap cette fois est assez clair?
Ouais, je trouve que c'est plus clair. Finalement, on s'aperçoit qu'à la fin du deuxième confinement et au début du deuxième déconfinement, ça progresse doucement. Ce sera sans doute très bon au troisième, j'espère. Je blague, hein, j'espère qu'on n'en aura pas.
Il a raison. Mais, c'est ça exactement. Ça
mais dans notre suradministration française qui nous a quand même inventé cette magnifique attestation pour aller faire du jogging, je ne m'en remettrai jamais parce que là, je crois que là, on a touché le fond. J'ai été contrôlé un peu avec ma petite attestation dans mon short, donc là franchement, je crois qu'on a atteint le fond. Aujourd'hui, on a donc les stations de ski sans le ski, mais globalement, je trouve que le Premier ministre avait un meilleur ton. Lui, sur la forme, c'était meilleur.
Bruno Jeudy, il aurait pu s'en passer de cette phrase-là, parce qu'une station de ski, par définition, c'est un village, donc c'est ouvert toute l'année.
Pourquoi avoir besoin de
cette précision qui donne le sentiment d'absurdité? C'est vrai.
Vous ne fermez pas un village, on est embêté puisque Angela Merkel a demandé une coordination européenne. Donc on va se coordonner avec les Allemands, les Italiens, les Autrichiens ne veulent pas.
Il faut savoir que la concurrence
pour les Alpes françaises, c'est ni l'Allemagne ni l'Italie, c'est les Suisses et l'Autriche. Donc là, il y aura un petit problème, il va falloir le gérer. Et dernier point, ce qui est un peu ennuyeux dans tout ça, c'est qu'une fois de plus, on est tous sous la même toile. C'est vrai qu'il y a un énorme problème avec les hôpitaux de Haute-Savoie et de Savoie, mais je ne crois pas qu'il y ait un problème pour les Pyrénées, pour le Jura ou les Vosges. Et les pauvres stations de ces massifs-là n'ouvriront pas.
Même remarque sur les lieux de culte, la jauge de 30 personnes, alors elle est maintenue. Mais entre une grande cathédrale et une petite église de village, pourquoi ne pas avoir appliqué, par exemple, la même règle que dans les magasins, 8 mètres carrés par personne? Au moins, c'est clair.
Oui, mais de toute façon, le grand problème de ce gouvernement, et c'était particulièrement criant lors de la première vague, mais ça continue aussi, c'est qu'elle ne regarde pas ce qui se passe à l'étranger. On a l'impression qu'on est dans une bulle et qu'on fait tout avec nos bureaucrates. Même pas les médecins.
En Allemagne, c'est dur aujourd'hui, les mesures.
Non, mais alors attendez. L'Allemagne. Je regarde les résultats. Moi, ce qui m'intéresse, je suis très pragmatique, le nombre de morts. Le nombre de morts en Allemagne, il y en a 4 fois moins qu'en France.
Mais
4
là, fois moins jusqu'à la mi-janvier, France.
4 fois moins qu'en France. Non, mais c'est humiliant.
Non, mais
c'est humiliant pour notre pays.
Ce que je vois, c'est que là, ils prennent des mesures plus dures que nous.
Oui, en tout cas, oui, plus dures. Mais attends, excuse-moi.
Mais vous avez vu la courbe, Bruno ? Excuse-moi. Elle est plus basse que la nôtre.
Ça va, ça vient. C'est-à-dire, les mesures changent souvent. Et je signale notamment, par exemple, que les librairies pouvaient continuer à fonctionner en Allemagne, lors de la deuxième vague, contrairement au premier confinement. Elles ouvraient, elles pouvaient être ouvertes. Et moi, je pense que notre gros problème, c'est qu'on ne regarde pas du tout ce qui se passe, qu'on a une gestion très bureaucratique et centralisée. Et par exemple, je vous donne un petit exemple, et je termine là-dessus. On pourrait regarder, par exemple, du côté de l'Espagne, il se passe que dans la région de Madrid, ça se passe bien, alors que les restaurants sont ouverts, les hôtels sont ouverts, etc. Ouais. Et que la présidente de la région, qui s'appelle Isabel Duaz Azuezo, elle a une politique très simple, c'est test antigénique, test antigénique, test antigénique. Voilà. Bon, bah, là, on a l'impression qu'on est sur une autre planète.
On ne peut pas dire que la France ne regarde pas ce qui se fait en Europe, puisqu'on voit que progressivement, et Berlin se reconfine, et Madrid de temps en temps se reconfine, et Barcelone. Non, je crois qu'on n'agit pas dans un sens diamétralement opposé aux autres. Ou alors, je regarde
sur
pas.
La clarté du gouvernement, vous trouvez que les précisions qui ont été apportées aujourd'hui par Jean Castex sont claires, limpides et non discutables?
À peu près, il y aura toujours un trou dans la raquette.
Grosso modo, il a confirmé la feuille de route du président avant-hier soir. Moi, je croyais qu'ils allaient quand même lever l'ambiguïté pour les églises, parce que cette jauge à 30 est quand même un peu...
C'est quand même
assez stupide, parce que, bon, vous l'avez dit, entre les grandes églises et l'église du village, franchement...
C'est un peu comme si on disait, quel que soit le magasin, il faut
être 50.
Il est quand même pas si mal. Moi, je trouve, parce qu'il est quand même, il y a du bon sens toujours.
Alors, combien vous lui mettez, Jean Castex?
Mais là, aujourd'hui, j'ai trouvé que sur la forme, il était pas mal.
Moi, je toujours 15, moi, des notes comme ça, parce que je crois qu'il le mérite. Il est,
en
il
tous
a
les cas,
de bon sens.
Autant, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait des débuts à la rentrée qui étaient vraiment catastrophiques.
Bon,
et là, je trouve qu'il va mieux. Et surtout, il a un peu tensé ses ministres. Ça lui a fait du bien. Il a recadré Darmanin la semaine dernière. Il a mis Bruno Le Maire à 10 mètres. Blanquer, il a pris sa petite baffe. Je trouve qu'il faut se méfier quand il dort.
Non, vous n'empêcherez pas,
le maître
vous n'empêcherez pas qu'il n'ait pas l'air d'un Premier ministre politique, notamment quand il a commencé en disant je tiendrai la majorité, contrairement donc à Édouard Philippe qui était censé ne pas la tenir. Ça a complètement disparu du paysage.
Oui, combien vous lui donnez alors
Là, 11-12 quoi.
11-12,
c'est pas mal quand même.
Oui, c'est la moyenne. Ouais. Et vous, Michel?
Moi aussi. Ouais.
Et vous, Michel, 11-12. Dernière question, les amis. La colère qui monte chez les restaurateurs et les cafetiers qui... 20 janvier, c'est la perspective. Et encore, est-ce que cette colère qui monte peut se transformer en grogne sociale? Bruno Jeudy.
Alors moi, j'ai une position là-dessus. Je suis issu d'une famille de commerçants. Je suis très sensibilisé à ce sujet. Franchement, c'est simple. Quand on décide de sacrifier un secteur, c'est le cas avec les restaurateurs et les bars, et on peut ajouter les discothèques, je pense que la collectivité doit prendre entièrement à sa charge le coût que vont supporter cette catégorie. Franchement, là, on a ratiociné jusqu'à présent. Là, on passe à 20% du chiffre d'affaires. Bon, c'est n'importe quoi ce qui s'est raconté sur les loyers. Il faut savoir que 9 commerçants sur 10 en France payent des loyers à des gens qui sont eux-mêmes retraités commerçants et dont c'est le seul revenu pour pouvoir survivre. Donc, franchement, il y a une déconnexion complète de Bercy. Quand ils nous racontent qu'il y a des grandes foncières qui sont, effectivement, sur les Champs-Élysées, à Paris, dans les grandes villes. Mais ce n'est pas le cas de l'immensité.
Donc, le crédit d'impôt de 50%, c'est du pipeau.
Non, il faut. Et en plus, là, c'est très compliqué parce que là, les plateformes, c'est très difficile pour ces petits commerces, ces indépendants, de s'y retrouver.
Il nous reste 20 secondes. Qui veut le dernier mot?
Moi, j'ai envie de dire la même chose que Bruno, mais presque en pire. C'est que moi, ce que je vois, c'est une sorte d'horreur économique. Des gens qui pleurent, un secteur qui va à la mort, avec pas seulement les restaurateurs, les bars, les discothèques, il faut rajouter tous les petits métiers, les traiteurs, etc. C'est juste atroce. Et qu'est-ce qu'on leur donne? Il y a un sentiment d'inhumanité. Ce gouvernement est un peu hors sol, c'est-à-dire, vous voyez, il y aurait un peu plus d'élus. Je pense qu'il verrait un peu plus l'espèce la dépression qui s'est abattue sur toute une partie de la population.
Pardonne, mais le gouvernement n'a pas invité, n'a pas inventé le Covid. Voilà.
Mais c'est pour ça, je dis qu'il faut les aider, eux. Il faut les aider,
je suis entièrement d'accord.
Il faut les aider, eux, à avoir des mots.
Si on avait pu éviter ça,
on n'a pas dit qu'il faut les aider. Merci les amis, merci. 18h56, vous restez avec nous dans un instant. Le journal, et puis juste après, le Club des idées. Mais au fait, qui remboursera la dette Covid avec tous ces milliards injectés dans l'économie? On en parlera.